aujourd'hui, ce matin, nous recevons André Orléans. André Orléans est né en 1950. Il est ancien élève de l'école polytechnique, ancien élève de l'ENSAE, École nationale de la statistique et de l'administration économique. De 1974 à 1987, il a été administrateur de l'INSEE. Depuis 1987, il est directeur de recherche au CNRS. Il est également membre du CEPREMAP, Centre d'études prospectives d'économie mathématique appliquée à la planification, au laboratoire d'économie dépendant du commissariat au plan, associé au CNRS. Il est membre du conseil scientifique de la COB, Commission des opérations de bourse, et maître de conférences à l'École polytechnique. Ses spécialités sont l'économie financière et monétaire, l'économie des conventions. Ses publications, il a publié en 1982 « La violence de la monnaie au PUF » en collaboration avec Michel Aglietta. Il a assuré également la direction de trois ouvrages collectifs « Analyse économique des institutions au PUF » 1994, un ouvrage en anglais « Advances in Self-Organization and Evolutionary Economics » chez Economica 1998 en collaboration avec Jacques Lesourne. Également, « La monnaie souveraine » en 1998 aux éditions Audi Jacob en collaboration avec Michel Aglietta. Et en septembre 1999, il a publié aux éditions Audi Jacob donc un livre consacré à la finance intitulé « Le pouvoir de la finance », qui est donc le sujet de ce soir. André Orléans, je vous laisse la parole.
Merci. L'incertitude sur le futur est une dimension essentielle des économies capitalistes. Parce que ces économies sont dans un perpétuel mouvement et que ce mouvement est le résultat de l'action d'une multitude d'individus autonomes, décentralisés et innovants, il est extrêmement difficile de prévoir ce que sera l'économie demain, dans un an ou dans 10 ans. Pourtant, cette incertitude a un impact très important sur l'ensemble de nos décisions économiques. Même les décisions les plus simples de consommation sont liées à cette notion d'incertitude. Par exemple, est-ce que je dois acheter aujourd'hui un ordinateur ou bien attendre que son prix baisse? Est-ce qu'il faut que je m'abonne à l'Internet au débit ou bien est-ce que ça ne se développera que très tardivement? Toutes nos décisions économiques en tant d'acteurs économiques sont liées à cette notion d'incertitude. Pourtant, parmi toutes ces décisions affectées par l'incertitude, il en est une qui est concernée au premier chef, c'est l'investissement. Puisque investir, c'est immobiliser du capital sous forme de machines et d'entreprises et d'attendre, au fur et à mesure du processus de production, tout au long de la vie de ce capital, d'attendre les profits, les gains qui vont être réalisés. D'où un calcul économique, lorsqu'on va se déterminer à faire un investissement, qui va conduire l'entrepreneur à comparer le coût aujourd'hui immédiat de son investissement et les gains futurs qu'il peut espérer percevoir. Donc il va essayer d'anticiper un flux futur de gains tout au long de la vie du capital. Et donc on voit que cette incertitude qui va affecter la manière dont l'individu va percevoir le futur va avoir une importance considérable. Par exemple, si les investisseurs sont plutôt optimistes, s'ils pensent que la croissance est bonne dans les années à venir, alors ils vont déclencher des mouvements d'investissement parce que précisément, ils anticiperont une profitabilité importante. Au contraire, s'ils sont pessimistes, il se peut très bien qu'ils investissent peu et que ça ait des effets sur la croissance. Ou bien, selon les zones les branches de l'économie, on va choisir celles qui sont plus ou moins porteuses. Donc on voit que c'est la possibilité de prévoir le futur au mieux que l'on puisse le faire est tout à fait centrale pour assurer l'efficacité du capitalisme. Alors, on est confronté à une première définition. Je vais appeler cette méthode d'évaluation du capital à partir de sa profitabilité future. Je vais appeler ça la valeur fondamentale du capital. Donc, c'est un premier regard qui est celui de l'entrepreneur, hein, comme on l'a vu, qui essaye d'évaluer les perspectives, les profits, les arbitrages bénéfiques qu'il aura à partir d'un certain type d'investissement. Et je vais appeler ça la valeur fondamentale. Alors, c'est une notion qui va revenir souvent, donc il faut la définir très clairement. Autrement dit, la valeur fondamentale, c'est la vision qu'a l'entrepreneur de la profitabilité future de son investissement. Et comme on a vu, c'est quelque chose qui est anticipé et qui va être anticipé plus ou moins bien selon les connaissances de l'entrepreneur, les informations qu'il possède et la situation économique elle-même. Donc on voit ici qu'on a quelque chose de clé dans la dynamique des économies. C'est cette chose qui est clé, c'est l'accumulation du capital. Et cette accumulation du capital dépend de ces prévisions, de ces incertitudes, de la manière dont est évaluée la valeur fondamentale. Et ça me permet d'arriver à mon sujet aujourd'hui, c'est-à-dire les marchés financiers. En fait, je vais m'intéresser non pas aux marchés financiers en général, mais je vais m'intéresser à un marché financier particulier, c'est le marché des actions. Comme vous le savez tous, les actions, ce sont quoi? Ce sont des titres de propriété sur le capital qui donnent droit à une partie des bénéfices, la partie qui est distribuée, les dividendes, et l'autre étant réinvesti dans l'entreprise, et d'autre part qui donne un droit de regard sur la gestion des entreprises. Donc je vais m'intéresser à cette chose particulière qui est le marché des actions, le fait qu'il existe des structures, les marchés organisés dans lesquels les actions sont cotées au jour le jour. Et ma question ici, c'est de savoir comment comprendre le fonctionnement de ces marchés, comment essayer d'expliquer les fluctuations dans les prix de ces marchés. Donc c'est ça la question que je voudrais traiter aujourd'hui. Alors, il y a ici une première vision que je vais appeler vision fondamentaliste, pour lesquelles, et qui au fond correspond à la théorie financière, je dirais, orthodoxe, la plus classique et la plus traditionnelle, qui voit dans les marchés financiers une structure qui permet précisément de fournir aux investisseurs les signaux, les informations dont ils ont besoin pour pouvoir calculer au mieux la valeur fondamentale. Donc dans cette stratégie intellectuelle, dans cette courant de pensée, l'utilité sociale d'un marché financier, c'est de permettre un bon investissement en disant aux entrepreneurs, voyez, les investissements, ça vaut tant ou tant, donc calculant les profitabilités futures, ça indique aux entrepreneurs où est-ce qu'il faut qu'ils investissent, combien, est-ce qu'il faut qu'ils quelle période est la meilleure, etc. Donc là, on voit qu'il y a effectivement une utilité sociale très forte qui serait en quelque sorte de percer l'incertitude, de percer le mystère qui existe sur le futur. Et au fond, dans cette conception, on n'est pas loin d'un équivalent formel de ce que serait le planificateur socialiste. Avec le marché financier, vous avez les signaux qui permettent à l'ensemble de la société, aux acteurs économiques, d'avoir des renseignements, une représentation sur le futur qui soit satisfaisante. Alors, on en a un exemple tout récent que je vais reprendre souvent, c'est l'exemple de la bulle Internet. Je reviendrai sur ces termes qui vont être au centre de mon propos. Mais on a bien vu qu'effectivement, au moment où le marché sur ces valeurs Internet liées au commerce électronique a commencé à croître, effectivement, ça a révélé à l'ensemble des acteurs économiques l'idée qu'il y avait des opportunités de profit, des profitabilités futures importantes, parce qu'il y avait là un gisement de croissance tout à fait important. Et on a vu qu'en effet, ce type d'évaluation a permis un fort investissement dans cette branche. Donc on verrait là tout à fait une illustration de cette approche fondamentaliste dans laquelle nous aurions des opérateurs sur ces marchés qui seraient spécialisés en quelque sorte dans l'analyse de l'incertitude, dans l'analyse du futur et qui donneraient aux autres individus les signaux dont ils ont besoin pour pouvoir investir justement. Et là, donc, ça a permis d'un développement extrêmement puissant d'Internet, en montrant qu'il y avait là un gisement potentiel de croissance. Alors, cette théorie, en fait, on peut dire, pour l'analyser, dans sa structure, on pourrait dire que c'est une théorie du reflet. C'est-à-dire que dans cette analyse, la finance n'a pas d'autonomie, elle essaye simplement au mieux de saisir la structure même de l'économie réelle. Donc elle a un rôle, comme on vient de le voir, mais elle n'a pas d'autonomie, elle est un reflet, elle essaye de comprendre le mieux les mécanismes d'une économie réelle qui lui est donnée. Et dans cette conception, la finance, on peut dire, est au service de la production. Grâce à la finance, les producteurs, les entrepreneurs vont avoir les bons signaux qui vont permettre un investissement efficace. Et comme les ressources sont rares dans nos économies, c'est important qu'on les mette au bon endroit. Alors, à cette idée d'une théorie du reflet, qui aurait donc pour rôle de révéler les valeurs objectives et qui en cela saisirait le capital dans sa dimension de capital productif, immobilisé, produisant de la valeur autour du temps, autour de la notion de valeur fondamentale, je vais opposer une autre vision dans laquelle la finance sera considérée au contraire comme autonome. Elle n'est pas un reflet, elle est autonome. Elle ne révèle pas des valeurs objectives, mais elle fait émerger des représentations qui sont propres à elles-mêmes, c'est elles qui les créent en quelque sorte à travers un travail communicationnel et propre au marché. On peut dire dans ce cas-là qu'on est face à une logique d'opinion, alors que dans l'analyse fondamentaliste traditionnelle que je viens de présenter, les prix ne sont qu'une expression des valeurs objectives, des valeurs fondamentales du profit futur des entreprises. Dans cette analyse que je vais essayer de montrer, ce n'est pas ça, c'est le marché lui-même qui se fait une représentation du futur et qui, à partir de cette représentation du futur, détermine les mouvements d'investissement. Et comme je vais le montrer, l'accent central alors sur les titres, le capital n'est pas perçu ici tellement en tant que capital productif, comme c'était le cas dans la première analyse, mais comme capital liquide, c'est-à-dire sous forme de ces actions qu'on peut acheter ou vendre à tout moment au cours de la journée ou au cours de l'année. Et c'est donc cette analyse-là que je vais essayer de proposer. Alors cette proposition, parce qu'il me semble que la première analyse, celle qui est au fond la plus simple, l'idée que la finance exprime des valeurs objectives, ce que j'ai appelé la valeur fondamentale, est démentie par de nombreux faits. Et je vais en citer deux grandes catégories de faits qui me semblent ici demander à être pensés de manière différente. Le premier, c'est la constatation tout simple que les évolutions de prix sur les marchés financiers sont difficilement interprétables en termes de modification des valeurs fondamentales des entreprises. Ça va être mon point, le point de fond, c'est-à-dire de dire que regardons la manière dont les marchés financiers se comportent. Les prix ont des évolutions qui sont beaucoup plus saccadées, qui ont des propriétés très différentes d'une conception, d'une évolution des prix qui serait liée simplement aux fondamentaux. Alors pourquoi ? Je vais donner trois raisons. La première, la plus intuitive et la plus directe. Nous voyons sur les marchés, sur tous les marchés, c'est vrai du marché des actions, des fluctuations au jour le jour de très grande ampleur. Au moment des cracks, on peut atteindre des fluctuations de l'ordre de 20% des prix. On a connu sur le Nasdaq, le marché des valeurs technologiques de New York, récemment une augmentation de 10%. Sur l'euro, vous avez peut-être vu aussi qu'il y avait des fluctuations très importantes. Or, ce type de fluctuation de l'ordre de 10% par jour est difficilement interprétable. Je ne dis pas que c'est impossible, mais enfin, est difficilement interprétable avec une analyse fondamentaliste. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux de l'économie, c'est-à-dire la productivité, la production, la croissance, les flux macroéconomiques, sont des choses qui sont relativement inertes. Les taux de croissance de ces grandeurs sont de l'ordre de quelques 5%, disons, dans l'année, quelque chose comme ça. Donc il est difficile d'expliquer des variations de plusieurs pourcents par jour à partir de grandeurs qui n'évoluent que de quelques pourcents par an. Et donc, il y a là une première, difficulté, quelque chose qui nous met la puce à l'oreille pour essayer d'avoir une analyse des prix qui soit peut-être plus conforme aux réalités. Alors, si on est quand même un tout petit peu plus précis que ça, on peut regarder l'évolution même des prix, et c'est ce que je vais faire tout de suite dans un graphique. Alors, si je vous présentais tout de suite l'évolution des prix, le problème, c'est que c'est difficile à interpréter parce qu'on pourrait toujours me dire que oui, il y a des périodes où les prix augmentent, mais qu'au fond, ce n'est pas contradictoire avec l'hypothèse fondamentaliste dans la mesure où ça peut correspondre à des périodes où les bénéfices augmentent. Et là, ça serait évidemment tout à fait compatible avec la théorie fondamentaliste. Alors, pour essayer de tenir compte de manière un peu encore fruste de cette contre-hypothèse, au lieu de présenter simplement les prix, je vais présenter le ratio des prix sur les bénéfices, ce qu'on appelle en anglais le PER, le Price Earning Ratio, c'est-à-dire le ratio des prix sur les bénéfices. Et on va voir donc c'est évidemment un indicateur très fruste, mais c'est quelque chose ici de façon à placer les choses, de façon à pouvoir continuer par la suite, avoir quelques idées en tête. C'est quelque chose de très fruste parce qu'évidemment, à même niveau de bénéfice, si deux actions, si deux entreprises font 100 de bénéfices, s'il y en a une qui fait 100 de bénéfices avec une idée de croissance de 10% des bénéfices par an pendant 10 ans et que l'autre fait 100 de bénéfices, mais 100 bénéfices constants tout au long de sa période, il est clair que le prix va être différent et donc que le prix ne peut pas être pensé uniquement proportionnel aux bénéfices. Mais ça nous donne quand même une idée. Alors voici ce graphique que je vous propose. C'est un graphique qui est tiré de l'œuvre de Robert Schiller, qui s'appelle Irrational Exuberance. En abscisse, vous avez les années. Alors, je vais me lever. Vous avez les années. Ça commence en 1880 et ça finit vers l'an 2000. Et vous avez ici les fluctuations de ce PER, du rapport des prix aux bénéfices. Et ce que vous voyez immédiatement, c'est qu'on est loin, beaucoup, très loin d'une constante, même de quelque chose qui serait autour de la constante. On voit qu'on a des pics, au contraire. C'est très marqué par des pics et des creux. Ces pics, ce sont quoi? C'est 1901, 1929, 1966 et 2000. Ce sont ces moments, ce que je vais appeler tout à l'heure bientôt les bulles spéculatives, c'est-à-dire ces moments précisément où les valeurs fondamentales et les prix, les prix se déconnectent des fondamentaux. Alors vous voyez que ici c'est très très chahuté, et même donc en tenant compte ici des bénéfices, même si par exemple aujourd'hui, et vous voyez qu'aujourd'hui 2000, en fait on est ici, c'est quelque chose qui date du début d'année, et comme vous savez les choses se sont transformées depuis le début d'année, mais vous voyez que la situation de 2000 est tout à fait même exceptionnelle dans l'histoire récente, au moins centenaire de la finance. C'est un pic, une bulle spéculative encore bien plus grande que la bulle spéculative de 1929, ce qui vous donne un peu l'ampleur ici des phénomènes qui sont à l'œuvre. Donc on a quelque chose ici de très chahuté, et c'est une deuxième raison qui nous tend à se dire peut-être il faut aller au-delà des bénéfices, il faut aller au-delà de cette théorie fondamentaliste pour essayer de comprendre comment effectivement les prix fonctionnent. Alors, il y a eu encore quelque chose de mieux, de façon à éviter la critique par rapport à ça, d'un fondamentaliste, de quelqu'un qui croirait à cette théorie orthodoxe, c'est de dire, la critique que j'ai faite tout à l'heure, c'est de dire que, mais les prix sur bénéfices, on sait que ça n'a pas à être rigoureusement constant. Si jamais la croissance des bénéfices est importante, alors on peut avoir des prix sur bénéfices qui sont beaucoup plus importants. D'où un deuxième graphique qui a essayé, alors là, beaucoup plus directement, et il est aussi, je le tiens aussi de Robert Schiller dans son œuvre, qui a essayé simplement de calculer la valeur fondamentale. Alors, avant de montrer ça, il a calculé la valeur fondamentale. Alors, vous me direz, c'est très difficile de calculer la valeur fondamentale, puisque, comme je l'ai dit, elle dépend des profits futurs. Or, aujourd'hui, nous ne savons pas quels sont les profits futurs. Donc, on ne peut pas calculer la valeur fondamentale, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a constamment, sur ces questions, des incertitudes. Il y a des gens qui peuvent dire, moi, je vais pouvoir vous dire tout à l'heure, effectivement, les prix des valeurs Internet étaient trop élevés. D'autres vous diront, mais non, c'est justifié parce qu'il y a une forte croissance, il y a une forte demande. Il restera toujours un élément d'incertitude qui est propre à nos économies, qui est propre ici, même à la théorie économique. Simplement, ce que je montre, c'est que dans les ordres de grandeur, nous devons être méfiants. On peut peut-être expliquer ça, mais quand on voit ce type de phénomène en le comparant, le dernier graphique, où on voit qu'on a des price-earning ratio, des PER, qui vont être de l'ordre ici en moyenne de 45, alors que sur la moyenne historique, on doit être autour de 15 et 20, il y a moyen d'alerter quand même le théoricien et de se demander si c'est juste. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Schiller? Au lieu de considérer ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est reporté dans le passé et il a calculé les valeurs fondamentales à partir des profits et des dividendes effectivement réalisés. C'est-à-dire, si vous vous placez en 1920 ou en 1930, vous pouvez calculer la valeur fondamentale qui s'est révélée par la suite. Il suffit de comprendre, de prendre les prix, de prendre les profits qui ont été effectivement distribué, et de faire une hypothèse sur, effectivement, il y a une hypothèse quand même, sur la valeur de fin de période 2000 et sa justesse. Mais quand même, ça nous donne quelque chose auquel l'hypothèse, la critique tout à l'heure ne porte plus. Et le résultat est celui-là. À nouveau, c'est une courbe qui a en abscisse, alors, le temps, ça varie entre 1870 et 1970 parce qu'il s'est arrêté beaucoup plus tôt, et en ordonnée, ce que vous voyez, donc c'est un indice boursier, j'aurais peut-être dû le dire tout à l'heure c'était un PER, ici c'est un indice boursier, ça doit être le Standard & Poor's, un indice boursier américain. Tout à l'heure aussi d'ailleurs il s'agissait de PER américain. Et donc il a calculé, donc vous avez la courbe en trait plein. Donc, vous voyez qu'elle est très, très chahutée. Le pic, là, au milieu, ben, c'est rien d'autre que la crise de 29, c'est-à-dire ce mouvement d'envolée avec une rupture extrêmement forte. Et la chose, le trait en pointillé, c'est la valeur fondamentale théorique
analysés à partir d'effectivement les profits réalisés. Et donc, ce qui saute aux yeux ici, et là, là, il faut être plus précis dans ces critiques, c'est qu'il est difficile d'expliquer les évolutions réelles, extrêmement chahutées, avec des grands pics et des bas, uniquement à partir de la petite courbe ici, qui tient compte uniquement des modifications de dividendes et de profits. Et ce que je disais dès le départ, ma première remarque, nous le faisait sentir dès le départ, qu'il y avait une difficulté. On peut dire que, pour résumer, il y a deux types d'anomalies qui apparaissent dans les courbes de prix par rapport à la théorie fondamentaliste. Il y a d'abord l'idée qu'il y a des écarts en niveau entre les valeurs fondamentales et les prix. Ces écarts en niveau, on va appeler ça désormais des bulles. On appelle bulles, on dit aussi des bulles spéculatives pour des raisons que je vais expliquer tout de suite. On appelle bulles des situations où on observe un écart entre le prix et la valeur fondamentale. Alors, il y a toujours un exercice difficile, c'est de calculer une valeur fondamentale, mais on fait certaines hypothèses, on essaye de trouver une approximation. Ça, on appelle ça une bulle. C'est le premier type d'anomalie que nous avons remarqué. Il y a des périodes très longues. Si je reprends cette courbe, vous avez des périodes très longues. Par exemple, à cet endroit, à la fin de la courbe, vous voyez où les niveaux sont bien plus élevés que le prix. Donc, c'est ce qu'on appellera, dans ce cas-là, une bulle. Et puis, il y a une deuxième anomalie, qui est d'une autre nature, c'est que ça bouge beaucoup plus que le prix bouge beaucoup plus que ne bouge la valeur fondamentale. Et ça, on va appeler ça la volatilité. C'est-à-dire que la volatilité simplement des cours est bien plus grande que la volatilité qui pourrait être expliquée uniquement par les fondamentaux. Et on va s'attacher à ça désormais. Dans mon exposé, je vais m'attacher à ça, c'est-à-dire à essayer de proposer une analyse de l'évolution financière qui permettent de rendre compte à la fois de l'existence de bulles et de volatilité excessive. C'est les deux grandes anomalies par rapport à la conception précédente qui vont m'intéresser. La deuxième, on pourrait dire, avant d'y arriver, il y a un deuxième type. J'avais dit qu'il y avait deux types de facteurs qui me conduisaient à prendre mes distances par rapport à la théorie fondamentaliste. Les premiers, c'était les faits les plus simples, que d'ailleurs chacun d'entre vous doit avoir ça en tête. C'est tout à fait commun de dire, regardez, les prix varient beaucoup. Est-ce qu'on peut expliquer ça vraiment par les données de l'économie réelle? On a vu à partir de ces graphiques et de ces analyses que c'était difficile et nous, on a trouvé des anomalies. Deuxième point, deuxième type de phénomène d'expérience qui me font douter quant à la validité de cette théorie, c'est l'analyse même des comportements de marché. Parce que si la théorie fondamentaliste s'imposait, alors elle nous dit que les individus, les opérateurs, devraient s'intéresser centralement pour faire des profits financiers aux valeurs fondamentales. Leur rôle, ils ont pour but d'essayer de s'informer sur les valeurs fondamentales, sur Renault, Microsoft, etc., de façon à prévoir comment va évoluer l'industrie économique, l'industrie automobile, l'industrie informatique, et pour investir. Or, et donc ils auraient en quelque sorte le regard du fondamentaliste doit être tendu vers l'extérieur du marché, vers l'économie réelle. Or, l'observation des marchés et des comportements de marché nous montre qu'au contraire, pour une grande partie, le regard des opérateurs est au contraire tourné vers le marché lui-même. C'est-à-dire ce qui intéresse les opérateurs, fondamentalement, c'est comment le marché lui-même va se modifier. Donc, ils s'intéressent aux opinions, à la manière dont le prix va se modifier. Et donc, leur regard n'est pas tourné vers l'extérieur du marché, il est tourné vers l'intérieur du marché. On essaye de deviner les fluctuations d'opinions qui vont prévaloir. On se demande aujourd'hui, est-ce que ça va rebondir? Est-ce que le marché pense que sur les valeurs technologiques, ça va rebondir ou non? Même chose sur l'euro, etc. Donc, vous voyez, il y a un type de comportement qui, factuellement, n'est pas immédiatement, s'il n'est pas incompatible, n'est pas immédiatement du même type que celui que prescrit le modèle fondamentaliste. Et le point qui plus est, c'est que ce comportement apparaît comme parfaitement rationnel. Parce que si vous allez sur un marché, effectivement, ce qui va déterminer à court terme, et Et comme disait Keynes, à long terme, nous sommes tous morts, donc on est obligé, bien obligé de s'occuper du court terme. Ce qui, à court terme, détermine nos profits et la situation financière, c'est bien les fluctuations de prix. C'est bien ces fluctuations à court terme qui déterminent notre richesse financière. Donc il est normal que lorsque vous rentrez sur un marché, vous allez vous intéresser centralement aux évolutions de prix. Si vous regardez l'ensemble des... L'ensemble des analyses qui sont fournies, par exemple, à la télé ou autre, sont complètement focalisées sur ça. Est-ce que ça va rebondir ? Est-ce que les prix vont augmenter ? Etc. Et donc, ma thèse, c'est que ce type de comportement, évidemment, n'est pas totalement incompatible avec les fondamentalistes, c'est-à-dire avec le fait que si ça rebondit, ça peut être pour des facteurs d'économie réelle, mais ce type de comportement conduit à s'autonomiser par lui-même, c'est-à-dire à donner à l'opinion financière elle-même le rôle moteur dans la détermination des stratégies spéculatives. Et je voudrais juste en donner une toute petite illustration théorique pour montrer donc que ce comportement que je viens d'indiquer très rapidement, ce comportement qui vise donc théoriquement à anticiper l'opinion du marché, au lieu d'essayer de prévoir les valeurs fondamentales, de calculer la valeur fondamentale, celui qui consiste à anticiper l'opinion. Eh bien, je vais vous montrer dans un petit exemple à quel point c'est rationnel. Je vais prendre un exemple que je tire à nouveau de Keynes, parce qu'un des grands théoriciens sur lesquels je m'appuie, qui a été un peu oublié sur ces questions, c'est John Maynard Keynes. On connaît bien le keynésianisme, tout ce qui tourne autour de la macroéconomie, des budgets, etc. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'il y a toute une partie de l'œuvre de Keynes qui est liée à la spéculation même. Et c'est cette partie de l'œuvre de Keynes sur laquelle je m'appuie fortement et qui a beaucoup des idées dans lesquelles j'ai puisé les idées que je développe aujourd'hui. Et il donne ça comme exemple. Alors, un petit graphique. Il dit, supposons... Donc, voilà, imaginons une action quelconque. Ah, ici, c'est l'instant, c'est le cours du temps. Supposons aujourd'hui que le cours de cette action vale 25. Il dit, voilà un individu qui arrive. C'est un individu fondamentaliste. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas. Je dis simplement que tous ne sont pas comme ça, qu'il faut introduire autre chose. Supposons qu'il y a un individu fondamentaliste. Et il a, pour des raisons, il connaît très bien cette entreprise et il sait qu'au lieu de valoir 25, à long terme, ce titre vaudra 30 euros. Dans une théorie fondamentaliste classique, il est clair que cet individu sera un individu acheteur, il va acheter le titre de 25 et il sera récompensé socialement de cet achat, d'avoir donné des signaux en achetant, il va un peu faire augmenter les prix et il récupérera 5 de profit au moment où sa prévision s'avérera et donc on sera à 30 euros, il aura gagné 5 et en quelque sorte c'est très bien ce mécanisme puisque les 5 euros c'est ce qui le paye pour l'utilité sociale qu'il fournit à la société en montrant, tenez, faites attention à cette action-là, elle est sous-évaluée. Maintenant, supposons que ce fondamentaliste, pour une raison quelconque, parce qu'il est comme tout un chacun, il est sur le marché, il côtoie les gestionnaires, les opérateurs, les autres investisseurs, et qu'on lui dit, vous savez, 25, cette action, personne n'y croit, et demain ou dans un mois, elle vaut 20. Qu'est-ce que doit faire notre fondamentaliste ? Très clairement, il y a ici une stratégie qui domine le fait de simplement être acheteur ici. Ce qu'il faut faire, c'est que sachant que c'est 20, ici, il sera vendeur, donc il vend à 25, il attend que ça soit 20, il rachète, et ensuite, le prix, si le prix fait ça, il va ici récupérer sa mise. Au lieu de faire 5 de profit, il va faire 5 ici, en vendant là, en rachetant là, il a 5, plus 10, il fait 15. Très clairement, c'est ça le comportement optimal de notre individu. Il a intérêt à agir de cette manière-là. Ne pas le faire, ce serait faire comme si il ne savait pas que les prix variaient au jour le jour et qu'on peut tirer des bénéfices de cette variation des prix. C'est évidemment absurde. Donc, ceci pour vous montrer que, excusez-moi, sur un marché, c'est-à-dire dès lors, et c'est ça le point fondamental sur lequel je reviendrai tout à l'heure, dès lors qu'il y a des cotations journalières des cours, on ne peut pas faire comme si ces cotations journalières n'existaient pas, se projeter dans le futur et n'investir qu'à partir du futur. Il est bien entendu rationnel d'utiliser ces fluctuations de prix de façon à essayer d'en tirer le plus grand profit. Et notre individu qui était là fondamentaliste et qui était acheteur, ce fondamentaliste acheteur se retrouve vendeur sur ce marché de manière parfaitement rationnelle. Donc on a, ici, ça montre bien quel est le poids des cours de marché à tout moment sur l'esprit des individus. Le fait d'avoir une idée d'investissement à long terme ne permet pas de tenir sur un marché. Chacun va tenir compte, au contraire, des fluctuations au jour le jour. Imaginez même, d'ailleurs, pour poursuivre l'exemple, que notre individu soit vraiment très, très convaincu qu'il ne faut pas s'occuper de la spéculation et il faut être fondamentaliste. Et donc, à ce moment-là, lui, il achète à 30 et il a son portefeuille 30. Vous imaginez ici le risque, à un moment donné, il va avoir un écart très, très fort entre la valeur qu'il anticipe et la valeur de marché. Ce qui fait qu'il peut courir des risques très, très grands. Si jamais, à ce moment-là, pour une raison quelconque, il a bien raison parce qu'il est fondamentaliste, mais il a besoin d'argent, il pourra perdre énormément à ce moment-là parce qu'il sera obligé de liquider au cours du marché. Donc, non seulement, voyez à quel point les prix, les cotations au jour le jour s'imposent aux individus, non seulement parce que ça leur permet de faire plus de gains, mais en plus de ça, ça diminue leur risque. D'ailleurs, notez que cet individu-là qui ferait ça dans cette situation serait considéré comme assez bête, disons, pour le moins, par l'ensemble du marché. Si jamais cet individu faisait ça, par exemple, avec de l'argent emprunté, il ne garderait pas longtemps son argent emprunté. Imaginez quelqu'un, un gestionnaire, qui, au moment de la bulle Internet, dise « Non, moi, je n'achète pas la bulle Internet parce qu'elle va retomber », il aurait eu raison, il perd immédiatement sa clientèle parce qu'il ne profite pas du flot de profit qui a été engendré à ce moment-là. Donc, on voit qu'il y a une pression, quitte évidemment à dire « moi, je vais me retirer au moment où les prix vont se transformer », mais il y a une pression donc à tenir compte des évaluations à court terme et à se caler sur elles. Donc, on voit ici qu'il y a un comportement, et c'est celui-là qui va m'intéresser, ce type de comportement qui est donc tout à fait différent du fondamentalisme. Et c'est ça qu'il faut analyser et essayer de comprendre comment, alors, sur la base de ces comportements rationnels, qui sont une rationalité particulière, qui n'est pas la rationalité fondamentaliste, ce n'est pas une rationalité de long terme, c'est une rationalité financière qui tient compte du fait qu'il y a des cotations au jour le jour, comment les prix se déterminent. Alors sur ce point, il faut dire qu'on retrouve ce constat dans Keynes, comme je le disais, et je vais vous faire une référence ici, une citation de Keynes, parce qu'elle est très intéressante. Il distinguait lui aussi deux types de comportements, ce qu'il appelle spéculation et entreprise, et donc c'est tout à fait mon propos est calqué sur ce qu'il dit. Alors comment il disait, sur les marchés il y a deux types de comportements, et on va retrouver nos deux comportements, le fondamentaliste qui regarde vers le futur et ce qu'on va appeler le spéculatif avec Keynes, celui qui s'occupe de l'opinion du marché. Alors sa référence, et ma référence ici est très claire, je désigne par spéculation l'activité qui consiste à prévoir la psychologie du marché, c'est ça qu'on appelle spéculation, et par le terme entreprise, celle qui consiste à prévoir le rendement escompté des actifs pendant leur existence entière. Donc le comportement qu'il appelle entreprise, c'est le comportement fondamentaliste, il s'agit bien d'un comportement de marché. Mais évidemment, elle est très proche du comportement d'entreprise. Je l'ai dit, j'ai commencé comme ça, puisque ce comportement, ce serait celui de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui, lui, ne joue pas sur le marché, qui donc ne bénéficie pas de ces fluctuations au jour le jour, mais s'intéresse à la santé de son entreprise, alors essentiellement, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est les bénéfices à long terme. Les fluctuations au jour le jour n'entrent pas directement, au moins, dans sa stratégie. Donc, il y a bien deux types de comportements. L'entreprise et la spéculation, le fondamentalisme et la spéculation. Mais lorsque nous sommes sur le marché, comme nous venons de le voir, c'est la spéculation qui apparaît comme la chose la plus rationnelle. Autrement dit, et ça c'est lié, et il faut insister, c'est lié au fait que nous sommes dans une structure où les titres sont cotés au jour le jour. C'est cette notion-là très simple de ce que je vais appeler maintenant la liquidité. Les marchés financiers sont des architectures organisationnelles qui créent de la liquidité, c'est-à-dire qui essayent de créer de la liquidité, parce que des fois, ils n'y réussissent pas, il y a des crises aussi, mais qui, à tout moment, permettent à un individu d'acheter ou vendre des titres à un prix donné. Donc, ce sont des structures qui cotent à tout moment, plus ou moins à tout moment, des prix, auquel on peut acheter ou vendre, avec des petits écarts, les titres que nous possédons. C'est ça, les marchés financiers, et c'est ça, la liquidité. J'appelle ça la liquidité, ou si vous voulez, la négociabilité, le fait que quand vous achetez un titre, vous pouvez le vendre, l'acheter ou le vendre, etc. Et c'est cette structure-là, c'est ça que je voudrais insister, c'est cette structure de liquidité qui explique la rationalité de la spéculation. Alors, autrement dit, quand il y a la liquidité conduit le regard de l'opérateur à s'intéresser aux événements de court terme et aux évolutions de prix. Ou encore, pour le dire d'une autre manière, sans m'alourdir trop, je l'espère, sur ce point, c'est de dire que la spéculation n'est pas une anomalie, c'est pas une pathologie de certains spéculateurs, de certains esprits trop avides de profit, c'est le comportement rationnel dans le monde où domine la liquidité. Si vous allez sur un marché, vous serez obligé de tenir compte des fluctuations de prix et de vous intéresser aux opinions. C'est quelque chose qui est dans la structure de ces marchés. Et donc, je vais continuer cette analyse. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on introduit ce motif, cette idée de spéculation, c'est que d'un seul coup, beaucoup des comportements qui paraissent naturellement irrationnels sur les marchés cessent de l'être rationnels. Je crois que c'est ça le point important, c'est qu'avec cette analyse, des tas de choses qui apparaissent comme des pathologies, des anomalies, de l'irrationalité des marchés, cessent de l'être pour apparaître rationnels. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bénéfiques, forcément, ce n'est pas la même chose. Ils peuvent être tout à fait avoir des effets désastreux, et là nous le verrons, et même des fois d'ailleurs des effets bénéfiques. Mais le point est que ce sont des comportements tout à fait rationnels, c'est-à-dire qui expriment rationnellement au mieux les contraintes sociales, c'est-à-dire les contraintes en l'occurrence de la liquidité, qui sont posées aux agents. Et c'est ça ce point important. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'histoire d'irrationalité, c'est la thèse, c'est une thèse très fréquente. Tout le monde sait que dans les marchés financiers, on ces périodes d'effervescence extrêmement fortes. Et ça, ça date du XVIIe siècle. Hein, ça date vraiment du début des marchés financiers pour ce qui est de notre continent. Dès le départ, il y a eu ces périodes de bulles. La première grande bulle du début du XVIIe siècle en Hollande, c'est une bulle sur les bulbes, les racines de tulipes. Qui donnait lieu à des prix de ces bulbes de tulipes qui pouvaient valoir facilement un hôtel particulier, enfin facilement valait un hôtel particulier de l'époque. Donc vous voyez, il y a eu un prix, une explosion de prix dont on n'a jamais on n'en connaît pas de telle ampleur aujourd'hui ou difficilement. Je pense juste à une comparaison, c'est peut-être la bulle immobilière au Japon aussi qui était énorme, hein, où pour donner un ordre de grandeur, le terrain qui correspondait au palais impérial, j'imagine qu'il doit être quand même assez vaste, correspondait au prix de sa valeur en yens à l'époque, correspondait au prix de l'ensemble de la Californie, pour vous montrer à quel point les prix de l'immobilier japonais avaient cru. Ces phénomènes, et la première analyse qui vient en tête, c'est celle de l'irrationalité. Pourquoi cela se passe-t-il ? Parce que les individus sont irrationnels, ils ne se rendent pas compte, ils achètent, etc. Je voudrais montrer que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est rationnel que précisément ça ne cesse de se reproduire constamment. Parce que si c'était irrationnel, d'une certaine manière, alors on pourrait, ça ferait que les marchés, le mécanisme lui-même ne serait pas en cause. Mais non, c'est le mécanisme lui-même qui est en cause. Et d'ailleurs, on ne comprend pas sinon comment un phénomène se reproduit, et non seulement se reproduit, mais s'accélère. Si vous regardez la période contemporaine, nous avons connu un krach obligataire au début 94, une crise mexicaine en 94-95, la crise des pays asiatiques, la crise russe, etc. Voyez. Donc ça semble être tout à fait récurrent, et c'est ça qu'il faut expliquer. Donc c'est ça que je vais défendre, c'est que ce sont des comportements tout à fait irrationnels. Alors pour le montrer, plaçons-nous dans la situation de fin 99, sur le marché Nasdaq. On voit une vague d'optimisme absolument délirant sur les valeurs Internet. Que faut-il faire ? Alors, on voit des acteurs qui achètent à ce moment-là. La théorie fondamentaliste, à ce moment-là, celle qui remarque que la valeur des prix, imaginons, est déconnectée des valeurs fondamentaux, dit que ces individus sont irrationnels. Ils participent à la bulle, ils ne comprennent rien, ils sont irrationnels, ces valeurs ne sont pas au bon niveau, pourquoi achètent-ils ? C'est spéculatif, etc. Mais je pense que cette analyse manque totalement le centre du problème. Il se peut très bien que les acheteurs soit tout à fait conscient du fait que les prix ne sont pas en rapport avec les fondamentaux. Mais ce n'est pas leur problème. Leur problème à eux, c'est de savoir si les prix demain vont monter ou baisser. Et ils ont beau être déconnectés par rapport aux fondamentaux, ce qui compte, c'est ce qui va se passer dans le futur. Donc on comprend qu'il peut être à ce moment-là, fin 99, tout à fait rationnel d'acheter des valeurs Internet, bien qu'elles soient nettement, aux yeux de beaucoup, surévaluées. Et d'ailleurs, la telle preuve, c'est que ceux qui ont acheté fin 99 des valeurs Internet ont effectivement gagné beaucoup d'argent, puisque les valeurs Internet ont continué de croître jusqu'en février. Et ils ont eu raison. Donc ici, on voit bien que ce mimétisme, ce comportement mimétique qui conduit à se calquer sur l'opinion du marché, à essayer de mimer le marché en l'anticipant, eh bien ce comportement est tout à fait rationnel. Et il peut avoir donc conduit à ces phénomènes à la fois à la hausse et à la baisse qui sont importants. Alors, évidemment, les effets globaux et collectifs de cette rationalité individuelle peuvent être tout à fait dommageables. Mais ça, c'est un autre problème. On va y revenir. C'est la question même, là, ce qui se pose, alors, c'est la question même de la liquidité. C'est la liquidité elle-même qui crée ce type de phénomène. Une fois qu'elle est là, est-ce qu'on peut ou non s'en échapper? Je crois que c'est structurellement inscrit, en quelque sorte, dans le programme génétique de la liquidité. Alors, l'intérêt de mon hypothèse de mimétisme rationnel dans ces types de structures, c'est que il permet d'expliquer les anomalies de prix qu'on a constatées tout à l'heure. Il permet d'expliquer à la fois les bulles et à la fois la volatilité extrême des cours. Il permet d'expliquer les bulles parce que, par le raisonnement que je viens de faire, c'est-à-dire les individus vont acheter même dans les périodes de hausse, même de hausse excessive, parce qu'ils anticipent qu'il va y avoir une hausse qui va advenir. Donc ça peut expliquer tout à fait les mécanismes d'augmentation des prix, même à des niveaux élevés. Autrement dit, contrairement à l'idée d'un marché qui s'autorégule, c'est-à-dire dans lequel, lorsqu'il y a des écarts, lorsque le prix devient trop élevé par rapport à la valeur fondamentale, il y aurait des forces de rappel qui ramèneraient les prix sur la valeur fondamentale, je crois qu'à court terme, au moins, et le court terme ici, ça peut être quelques années, à court terme, ça ne joue pas. Il y a des phénomènes, au contraire, qui peuvent aggraver les écarts. Et l'hypothèse que je propose, donc celle du mimétisme, l'hypothèse de mimétisme permet de l'expliquer. La deuxième chose qui l'explique, c'est la volatilité extrême. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que nous dit cette analyse spéculative de la finance ? C'est que ce qui compte pour un individu lorsqu'une information est donnée sur le marché, c'est pas la manière dont cette information va modifier mon calcul de la valeur fondamentale, ce qui serait l'idée fondamentaliste. Il y a une nouvelle information, elle me donne des données sur l'économie réelle. Je réévalue mon estimation de la valeur fondamentale et j'agis en conséquence. Ça serait le mécanisme de la conception traditionnelle. Là, ce qui compte, ce n'est pas ça, c'est ce que j'anticipe que cette anticipation, que cette information va avoir sur l'opinion des autres. Si cette information, je pense que personne ne va s'en occuper, personne ne va la voir, alors même si elle est valide, je ne vais pas en tenir compte. Par contre, si j'anticipe que tout le monde fait très attention à ce chiffre-là, tout le monde fait très attention à cette donnée-là, alors je vais effectivement être moi-même très attentif. Et ce type de phénomène qui conduit à le marché à d'un seul coup se jeter en quelque sorte sur certaines saillants, sur certaines informations à un moment donné, peut expliquer la volatilité extrême. Le fait qu'à un moment donné, tout le monde, partageant les mêmes croyances, la même représentation de l'économie, peut être conduit à expliquer ces anticipations. Cette volatilité. Alors, j'ai donné deux... On peut, pour schématiser, donc il y aurait deux thèses en présence. Et alors, j'ai trouvé amusant de les illustrer par ces petits dessins. Celui-là est Plantu. C'est un dessin de Plantu. Donc on voit, c'est un marché financier du temps où c'était à la criée. Et vous arrivez peut-être mal à lire. Les deux investisseurs, il y en a un qui dit quelque chose à l'autre. Il dit, le problème avec la bourse, c'est qu'il y a toujours une petite part d'irrationnel. Vous voyez le... Et là, vous êtes en plein délire irrationnel, etc. Donc, avec cette espèce de folie d'ivresse que l'on connaît d'ailleurs, effectivement, hein, dans les périodes de bulles spéculatives. Donc ça illustre la première théorie, celle auquel je m'oppose, c'est-à-dire l'idée que c'est l'irrationalité qui expliquerait ce fonctionnement de marché. Alors, je lui préfère cette thèse, vous allez voir, qui est exactement... alors, c'est un petit dessin, malheureusement, il est en anglais. Il est dans le Herald Tribune. Alors, la légende tout en haut ici, c'est un jour normal dans sur un marché financier. Et là, il y a un petit bonhomme, là, le premier ici, qui téléphone et qui parle à son correspondant en disant j'ai une action dont je suis sûr qu'elle elle va beaucoup augmenter. Et en anglais, il dit elle excelle. Excelle, elle va exceller. Et le voisin dit excelle. Et lui, il comprend Excel, et celui-là n'entend plus que sell, sell veut dire vendre. Donc celui-là entend sell, lui entend sell, et donc tout le monde, paniquant en disant, tiens, il y en a qui pensent qu'on va vendre, alors se mettent tous à vendre. Donc là, la bulle se développe, une bulle baissière. Et puis ici, il y a un petit individu qui dit, il y en a vraiment marre, je pars. Et celui-là, il dit goodbye, et lui, il dit goodbye, et lui, il dit bye, et ils se mettent tous à acheter. Donc cette analyse est plus en accord avec ma propre thèse. Alors j'ai trouvé une autre illustration de ce type de processus, une autre citation, c'est sur le marché de l'euro, parce qu'évidemment on trouve ça sur le marché des actions, mais aussi sur le marché d'échange. Alors voilà, c'est intéressant parce que c'est un interview dans Libération de septembre 2000 d'un opérateur qui est sur le marché de l'euro et qui est donc dans cette phase où l'euro baisse constamment et alors que tout le monde dit que les fondamentaux sont bons, etc., etc. Et on a ici, tout à fait, c'est très intéressant parce qu'on va voir que cet individu adhère à l'analyse fondamentaliste, c'est-à-dire qu'il considère qu'effectivement l'euro est sous-apprécié, que l'euro doit remonter à long terme. Et il va expliquer très bien pourquoi, bien qu'il adhère à ça, il va vendre de l'euro. Et donc, ça montre ici, tout à fait, c'est une illustration de ce que je dis, c'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas les idées fondamentales que vous avez, ce qui compte sur un marché, c'est ce que vous pensez que l'opinion va faire. Alors, il écrit, « L'opérateur que je suis a beau croire à une appréciation de l'euro, il ne fait pas le poids lorsqu'il constate qu'un peu partout, les positions des autres intervenants sur le marché d'échange sont à la vente de l'euro. Du coup, même si j'estime que l'euro mérite d'être plus cher par rapport au dollar, j'hésite toujours à acheter la devise européenne. En effet, si je suis seul acheteur d'euros face à 50 intervenants vendeurs, je suis sûr d'y laisser des plumes. Je ne fais pas forcément ce que je crois intimement, mais plutôt ce que je crois que fera globalement le marché qui, in fine, l'emportera. Le travail de l'opérateur est de tenter d'évaluer au plus juste le sentiment du marché des devises. » C'est toute une illustration donc pleine de ça. Mais on doit aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse. Et remarquer la chose suivante, c'est qu'il explique que lui y vend à cause des 50 intervenants. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si vous interviewez les 50 intervenants, pourquoi vendent-ils ? Eux ne vendent pas non plus sur la base d'un comportement fondamentaliste. Je suis sûr que si vous les interviewez, ils disent la même chose que lui. C'est-à-dire, ils disent « moi j'ai vendu parce que j'ai vu les autres vendre ». Par exemple, parce que j'ai vu l'interviewé ici vendre, je crois qu'il est vendeur. Et effectivement, ils auront raison, parce que l'interviewé en question a vendu. Et tous se mettent à vendre en croyant que les autres vendent, chacun s'auto-validant sa croyance par le fait qu'il y adhère. Donc on a une structure un peu bizarre, où l'individu A, par exemple, peut dire « je vends pourquoi ?» parce que B vend, et puis B dit « je vends parce que A vend ». Et ils ne se parlent pas, et tous les deux vendent, et tous les deux disent « ah, nous avions bien raison, j'ai vendu parce que l'autre a vendu », et lui dit « mais en fait, ils ont été tous les deux les créateurs de leur propre action ». Et ça, c'est le point important, je dirais, final de cette théorie que je propose, c'est cette idée d'auto-validation des croyances, c'est-à-dire que dans cette structure de spéculation, il est très possible, ce qui compte, c'est pas, donc on l'a bien vu, c'est pas les anticipations sur l'économie réelle, mais c'est la manière dont on anticipe les croyances du marché. Donc on est dans des croyances de second degré. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on croit que le marché croit. Et dans ce type de structure, il se peut qu'il y ait beaucoup de croyances qui s'auto-valident. Pour aller vite, si vous croyez que le marché est vendeur, vous vendez, et par là même, vous faites que le marché va être vendeur. Et donc, vous avez auto-validé votre anticipation. Et les individus, comme notre interviewé, ne se rendent pas compte que c'est eux-mêmes qui ont fait le mouvement. Eux, ils ont tous l'impression qu'ils ne font que suivre le marché. D'une certaine manière, c'est vrai, mais pour l'analyste, les analystes que nous sommes, c'est faux. Cette croyance, c'est eux-mêmes, en tant que groupe autonome, qui l'a créée. Donc ici, on a une nouvelle idée qui est vraiment tout à fait fondamentale dans ce type de spéculation, dans ce type d'analyse, c'est qu'il y a une indétermination des opinions et que cette opinion suit un processus, qui est un processus autonome d'auto-validation, qui peut se déconnecter tout à fait par rapport aux fondamentaux. Alors, pour désigner ce type de théorie, je propose le terme d'autoréférentialité. C'est-à-dire, je parle, en particulier dans le livre dont nous parlions tout à l'heure, en disant, cette structure, c'est une structure autoréférentielle. Et je crois que c'est intéressant de prendre de distance, parce que là, on a une structure logique tout à fait intéressante, qui est beaucoup plus générale que les marchés financiers, et donc qui peut aider à penser d'autres phénomènes. Alors, pourquoi je dis autoréférentialité ? Parce que les situations normales, c'est ce que j'appellerais des situations référentielles, dans lesquelles il y a une référence, ou hétéro-référentielles, c'est-à-dire des situations dans lesquelles vous avez une norme et vous essayez de vous en approcher, étant donné que vos actions n'ont aucun effet sur la norme. C'est tout à fait, par exemple, le travail scientifique. Il y a une vérité qui est la vérité scientifique, et puis les physiciens essayent de la découvrir, et ce n'est pas en la découvrant qu'ils la transforment. Donc, et dans beaucoup de situations, nous sommes heureusement, parce que c'est plus facile à gérer, nous sommes dans ce type de structure où on a un but, et puis il suffit de s'en approcher. Les situations autoréférentielles sont totalement différentes dans la mesure où l'action de chacun transforme la norme qu'il essaye d'obtenir. Donc chacun ici essaye de quoi ? De prévoir l'opinion majoritaire. Mais c'est quoi l'opinion majoritaire ? C'est le résultat de l'ensemble des prévisions sur l'opinion majoritaire. Donc ici, on a une situation tout à fait intéressante et vraiment complexe et donc satisfaisante pour penser ces phénomènes, d'une structure donc autoréférentielle où chaque action modifie l'opinion majoritaire. Et je crois qu'il y a là un cadre théorique qui est très important, parce que dans beaucoup de situations, au fond, c'est la théorie adéquate pour penser des groupes autonomes, c'est-à-dire des groupes qui se donnent leurs propres lois. Et sur un marché, la loi du marché, c'est le prix. Et ce prix, c'est rien d'autre que la représentation collective que les individus se font du prix. Et ce type d'analyse me semble bien correspondre à l'idée d'autonomie financière, alors que la théorie du reflet nous disait simplement que les individus, non, ils essayent de percevoir une réalité qui est là, une référence qui est la valeur fondamentale, le profit, et ils essayent de s'en approcher au mieux. Alors celui, à nouveau, qui a vraiment compris ça, même s'il n'utilise pas les termes d'autoréférentialité ni d'auto-validation, c'est Keynes. Et il l'a compris dans une comparaison extrêmement brillante. Il dit, la finance, c'est comme ces concours, ce qu'on va appeler le concours de beauté. De quoi s'agit-il ? Il dit, c'est ces concours qu'organisent les journaux, dans lesquels ils proposent à leurs lecteurs de trouver parmi 100 photographies quelle est la plus belle photographie, étant donné que le prix est accordé à celui qui se trouve le plus proche de l'opinion moyenne des participants au jeu. N'est-ce pas ? Le jeu référentiel normal, ça aurait été de faire un jury secret qui détermine quelle est la bonne photographie. Chacun essaierait de découvrir la bonne photographie. Dans ce cadre de structure référentielle, chacun essaye de découvrir quel est le beau, etc. Dans la structure autoréférentielle, où ce qui détermine la bonne photographie, ce n'est pas un critère extérieur, mais c'est les participants eux-mêmes au jeu, vous voyez qu'il y a là comme propriété, qui est un peu gênante après pour les problèmes financiers, qu'elle fait en sorte que l'opinion, la vraie opinion, n'a aucune importance. Savoir ce que c'est que la vraie photographie, ici, n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est savoir ce que les autres pensent être la bonne photographie. C'est anticiper l'opinion des autres. Donc, et de ce point de vue-là, si je pense que je peux croire que la bonne photographie, c'est A, si je pense que les autres pensent que la bonne photographie, c'est B, eh bien, je jouerai B. Et si tout le monde croit ça, on jouera B. Et vous avez des situations qui sont tout à fait possibles, dans laquelle chacun sait que, dans son fort intérieur, la bonne photographie, c'est A, mais pensant que tout le monde pense que c'est B, joue B. Et c'est exactement ce que j'ai dit sur l'euro tout à l'heure. C'est une situation où vous pouvez penser, tout le monde peut penser que c'est sous-apprécié, mais néanmoins, comme chacun pense que les autres vont vendre, alors c'est cette croyance. Et donc, on voit que cette structure autoréférentielle a des propriétés assez particulières, et qu'en particulier, elle conduit à ne pas révéler les vraies valeurs. Alors, pour conclure, en fait, tout ça est lié, au départ, quand on reprend le fil de l'argument, est lié à la liquidité. Au fond, c'est cette liquidité qui, dès le départ, a créé cette structure de jeu. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de marché liquide, les individus seraient obligés, les investisseurs s'occuperaient uniquement des rendements à long terme, parce qu'ils n'auraient aucun moyen, il n'y a pas de bénéfice autre que les bénéfices réels qui sont donnés par la production. Donc, au départ, c'est vraiment, je crois que c'est inscrit dans la liquidité même, c'est-à-dire quelque chose qui se développe aujourd'hui considérablement. Aujourd'hui, on est dans le monde, certainement dans une des phases de notre économie qui n'a jamais été aussi liquide, c'est-à-dire où où l'idée qu'il y a des cotations journalières de presque tout domine entièrement, avec des mouvements de capitaux extrêmement libres. Hein. C'est vrai des marchés d'échange, c'est vrai des marchés financiers, il y a beaucoup de marchés financiers, etc. Donc on est dans un monde de la liquidité. Et Keynes avait tout à fait ça en tête. Hein, il avait en tête cette idée que la cause, c'était la liquidité. Et d'où son idée dans le texte keynésien, c'est que, pour essayer de lutter contre la spéculation, la seule manière, c'est d'essayer de lutter contre la liquidité. Et ce qu'il proposait à cette époque, évidemment aujourd'hui, ce qu'il proposait, c'était de taxer, de faire des impôts, des taxes sur les échanges en bourse. Parce que si vous faites des taxes sur les échanges en bourse, alors effectivement, le fait de faire des allers-retours dans la journée n'est plus forcément rentable, parce qu'il faut comparer le gain au coût. Alors que celui qui investit pour 20 ans, le coût va être extrêmement faible pour 20 ans. Et ça, c'était une des idées keynésiennes, cette idée qu'il fallait amortir la liquidité et qui a été repris, je pense que ce n'est pas l'objet du débat, mais qui a été repris en particulier qui est à la source de la taxe Tobin. Hein, cette fameuse taxe Tobin dont on parle, en fait, elle découle très, très exactement de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire de se rendre compte que la taxe Tobin, vous savez, c'est une taxe qui provient du prix Nobel Tobin, qui avait proposé de taxer très faiblement les transactions sur les marchés d'échange, de façon effectivement à éviter autant que faire se peut les flux spéculatifs. Et c'est exactement cette logique que je viens d'analyser, c'est-à-dire que la logique de court terme serait un peu diminuée. Deuxième point pour terminer, je crois que celui-là est tout à fait important, on voit qu'avec la finance liquide, celle que j'ai proposée, on est rentré dans un régime économique très particulier dans lequel l'opinion joue énormément. On est rentré dans des économies, dans des régimes d'opinion, et je crois que nous, les économistes en tant que théoriciens, on doit tenir compte de ce phénomène. Il y a vraiment des phénomènes d'opinion qui sont là en cause. Et si vous regardez les marchés, comme vous les voyez tous, on voit, c'est par exemple dans tous les médias, maintenant les marchés sont là, sur LCI, vous avez le CAC 40 qui est présent, dans la presse, etc. Donc on voit que, effectivement, c'est, d'après ce que j'ai expliqué, la liquidité, c'est effectivement un régime d'opinion, où les gens on essaye de prévoir des opinions. Et de ce point de vue-là, il y a un certain... On pourrait faire l'hypothèse et la conjecture que je développe ici, qu'il y a une certaine homologie entre la logique des médias et la logique autoréférentielle que j'ai présentée, où chacun est à la course, à la vitesse, en dehors même du contenu de l'information. Ce qui est plus important, c'est de l'avoir en premier. Je crois que cette analyse de l'autoréférentialité permet de la comprendre et de montrer comment, aujourd'hui, ce régime d'opinion est devenu très important, d'autant que, au fond, il est parallèle à une autre transformation, qui est la transformation dans le domaine politique, dans laquelle le régime représentatif, la démocratie représentative, est elle-même tendue à devenir une démocratie d'opinion. Donc il y a un phénomène à la fois dans l'économie, dans le politique et dans l'économie, qui est de plus en plus dominé par la finance liquide, où les phénomènes d'opinion sont devenus de plus en plus importants, et on pourrait parler d'un régime d'opinion globale qui aurait des propriétés intéressantes à analyser. Merci.
Voilà, merci beaucoup. Merci.
Bonjour et merci de cet exposé. Est-ce que derrière cette analyse, vous envisagez des moyens d'action une fois qu'on a constaté l'opinion? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Vous avez parlé de la taxe Tobin. Apparemment, vous n'y croyez peut-être pas trop. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Et peut-être un autre volet, comment est-ce que ça s'articule avec les actions des pouvoirs publics? Je pense à deux choses, au franc symbolique de Thomson et puis aux licences UMTS.
Je réponds directement. Alors, que peut-on faire? Non, la taxe Tobin, je connais un peu mal le dossier. Il me semble que son intérêt, en tout cas, c'est de poser le débat au bon endroit, c'est-à-dire vraiment sur cette question de la liquidité. Effectivement, je connais mal le dossier. Ce que je me demande, c'est en période de forte spéculation, je ne suis pas sûr qu'une taxe qui va être d'ampleur faible va pouvoir avoir un effet à court terme, je dirais, sur les phénomènes de spéculation les plus violents. puisque vous avez des rentabilités possibles qui sont de l'ordre de plusieurs pourcents, dizaines de pourcents, je ne suis pas sûr que ce petit grain de sable, à ce moment-là, se justifie. Mais enfin, je reconnais qu'elle pose les problèmes au bon endroit. Et d'autant plus que, oui, que peut-on faire il y a effectivement une logique totalement structurelle hein, qui est inscrite dans la liquidité. Alors, il y a deux choses, on pourrait dire. Premièrement, c'est l'idée de mieux informer, d'essayer de, au fond, ce qu'on pourrait faire de mieux, ce serait de modeler l'opinion financière. C'est-à-dire, puisque reconnaître que ce qui compte, c'est l'opinion financière, il s'agirait de la modeler, d'essayer de qu'elle ne parte pas dans ses emballements mimétiques, c'est-à-dire la modeler et puis l'informer. Donc, au fond, c'est un peu ça auquel s'essaient les banques centrales, avec plus ou moins de bonheur, en essayant de transformer l'opinion sur les marchés d'échange, étant donné que les interventions elles-mêmes, allant à contre-courant de forts emballements mimétiques, ne permettent pas de résoudre le problème. Là, vous voyez, la manière même dont je le dis vous montre que je suis assez sceptique, parce qu'il y a une autonomie de l'opinion financière qui est extrêmement forte, et donc je ne crois pas vraiment à cette possibilité. La deuxième chose, c'est la thèse de la transparence ou de l'information. Essayer de donner de plus d'ancrage, non pas la modeler, mais essayer de lui donner le plus d'informations possible de façon à ce qu'elle n'aille pas dans ses débordements. Alors c'est quoi? C'est au fond des espèces comme les agences de notation. On appelle agences de notation, c'est des institutions qui analysent à long terme les économies, les entreprises, et qui donc donnent des informations gratuites au marché et qui permet au marché donc de modeler son opinion. À nouveau, je suis aussi sceptique par rapport à ça, parce que ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a une telle domination. Et c'est ça qui est vraiment tout à fait fondamental dans ces phénomènes d'autoréférentiel, c'est que quand une opinion devient majoritaire, comme au moment, par exemple, de la bulle Internet ou au moment du boom des économies émergentes, tout le monde est emporté là-dedans, toute la société, et même les agences de notation. Il n'est pas possible de rester à l'extérieur de ce mouvement. Elle modèle, elle informe toute votre manière même de voir le monde. Hein, et c'est ça, en cela, que c'est un mécanisme extrêmement intéressant. Enfin, c'est que c'est pas quelque chose seulement de l'information, c'est vraiment une imprégnation des esprits. Donc moi, je reste dans mon scepticisme. J'ai peur de ne pas vraiment répondre à votre question. Je pense que je ne crois pas, par exemple, que la transparence. On dit beaucoup, il faut que ce soit transparent. Évidemment, on peut pas être contre la transparence, mais je ne suis pas sûr que ce soit une solution à ce problème. Il me semble que c'est, comme je disais, dans le programme génétique de la liquidité.
Oui, merci. Monsieur, là-haut, s'il vous plaît.
Oui, plus une petite information qu'une question. Je représente l'association ATTAC et nous organisons une conférence le 11 janvier avec Suzanne Georges à la Maison du Champ de Mars. En ce qui concerne la taxonomie, effectivement, ce que vous dites est extrêmement intéressant, à savoir qu'informer l'opinion et savoir ce que représente ces mouvements de capitaux, ces allers-retours, ce que ça influe sur la vie de tous les jours, je crois que c'est quand même quelque chose de très très important. Et le poids de l'opinion peut influer sur les politiques. Je crois que les politiques subissent d'un côté la pression de l'économie, comme vous l'expliquiez, et de l'autre côté la pression de l'opinion publique. On l'a vu avec l'exemple de la vache folle, où M. Jospin a quand même fait marche arrière quand les gens ont refusé d'acheter de la viande.
Merci, monsieur. Oui, s'il vous plaît, une question là.
Vous avez dit qu'effectivement, à long terme, on sera tous morts, mais est-ce que dans votre analyse, enfin, c'est Keynes qui l'a dit, est-ce que dans votre analyse...
Ça a l'air malheureusement assez vrai.
Oui, je suis bien d'accord. Est-ce que dans votre analyse... la valeur fondamentale et la spéculation ne se retrouvent pas sur le très long terme. La valeur d'une action à très long terme, est-ce qu'elle ne... le cours ne rejoint pas la valeur fondamentale? Bon, c'est une première remarque. Ma deuxième remarque ou réflexion, c'est que vous considérez, et à juste titre, que le prix et l'attitude des acteurs sur le marché sont liés très étroitement à la plus-value ou moins-value de l'action. Est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas atténuer un peu cette spéculation si les entreprises prenaient l'habitude de distribuer un peu plus de dividendes ? Et à ce moment-là, peut-être qu'on raisonnerait à moins court terme et en se disant on aura des dividendes. Alors je crois que c'est un peu utopique, mais il y a quand même une pratique des entreprises aujourd'hui, c'est de distribuer des dividendes non négligeables que quand il y a une OPA.
Merci. Oui, sur le point, premier point, c'est vraiment une question tout à fait importante parce que, évidemment, il faudrait continuer à développer ce que j'ai présenté. Je m'en suis arrêté, au fond, à décrire la structure autoréférentielle. J'ai expliqué qu'il y avait des phénomènes d'autovalidation et d'autonomie, mais je n'ai pas tellement donné de clés pour savoir comment elle se structure, etc. Donc, il faudra développer plus, et votre question me va me permettre de le faire. C'est, premièrement, effectivement, il ne faut pas croire que parce que c'est une logique d'opinion, ça soit n'importe quoi. C'est-à-dire que les fondamentaux n'est pas des faits. Simplement, ce que je critique, c'est cette vision extrême, contraire, qui dirait que c'est essentiellement, uniquement les fondamentaux qui jouent. Donc, je crois qu'il y a un effet des fondamentaux. Je veux dire, aujourd'hui, on voit bien que les publications sur les rentabilités des entreprises ou leur chiffre d'affaires a des effets sur le marché. Donc, il ne faut pas nier ça. Et de ce point de vue-là, les équilibres auxquels on aboutit dans ma théorie autoréférentielle tiennent compte de ces fondamentaux. Mais simplement, ils en tiennent compte au travers des opinions. C'est-à-dire que il n'y a pas moyen, en quelque sorte, d'avoir une vision, je dirais, mécaniciste, où le marché, c'est un peu une critique, au fond, de cette idée de main invisible, c'est-à-dire d'un marché qui serait complètement, qui pourrait être supérieur en connaissance à la connaissance de l'ensemble des individus privés. Là, je crois que sur le point en question, de toute manière, le marché va exprimer les connaissances privées. Mais il va les exprimer, donc il va avoir des rapports avec les fondamentaux. Donc on montre évidemment qu'il y a des rapports avec les fondamentaux. Mais simplement, ces rapports sont extrêmement biaisés. Ils peuvent être à tout à fait long terme. On va à un moment donné, c'est certains types de fondamentaux qui vont retenir l'attention, d'autres on va les oublier, donc il va avoir tout à fait ces effets de déformation dont on peut tenir compte à travers d'une logique d'opinion. Mon point, juste pour le dire en une seconde, c'est que en fait ce genre de situation se structure à travers des conventions. C'est-à-dire l'idée, l'autoréférentialité à un moment donné débouche sur des croyances partagées, ce que j'appelle des conventions, qui à un moment donné structurent les évaluations. Et pour répondre à votre question, ces conventions tiennent compte des fondamentaux. Hein. Par exemple, on ne peut pas dire qu'Internet, il n'existe pas une révolution technologique Internet. Il y a bien quelque part des éléments fondamentaux qui sont en cause. Simplement, ils n'agissent pas mécaniquement et il n'y a pas une efficience surnaturelle du marché, ils agissent à la manière dont ils sont perçus au travers des conventions. Et ça peut être tout à fait déformé. Et c'est ça essentiellement que je veux dire. Sur distribuer les dividendes, je ferai un peu la même réponse, le même un peu problème qui était celui posé tout à l'heure à propos de la taxe Tobin, c'est se demander si cette distribution de dividendes, de toute manière, elle ne pourra jamais être suffisamment massive pour pouvoir être mise en relation avec une variation de 10% des prix. Et les bénéfices qu'on peut de 20% ou 40% qu'on peut obtenir. Donc voilà, il restera nécessairement ça. Et entre les périodes où on ne distribue pas les dividendes, alors à nouveau le mécanisme jouera. Ce que vous pourrez donner, c'est plus d'importance aux dividendes à un certain moment donné, mais vous n'empêchez pas le mécanisme d'opinion, de prévision sur la fluctuation des prix. Imaginez même que les dividendes soient très élevés. Donc en juin, on les distribue. Ensuite, au cours de l'année, si vous avez des variations d'opinion très fortes, ça n'empêcherait pas des fluctuations à ce moment-là.
Merci André Orléans.